Bonjour et bienvenue sur le podcast En Famille, le podcast de toutes les familles.
Je suis Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne. Je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents et leurs familles. Je suis aussi cofondatrice et présidente de l'association e-enfance qui informe et protège les mineurs des dangers potentiels d'Internet. J'ai écrit une dizaine d'essais sur les liens familiaux.
Je suis Marie Guyot, je suis journaliste spécialisée en santé et en psychologie. Dans le cadre de mon métier, j'ai réalisé de nombreux reportages sur les problématiques familiales. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rencontrer Béatrice. De cette rencontre est née une amitié et l'envie de travailler ensemble, puisque nous avons coécrit 3 livres autour de cette thématique de la famille.
Aujourd'hui, la famille a changé. Elle se sépare, elle se réinvente, elle peut être nucléaire, recomposée, monoparentale, homoparentale. Et de nouvelles questions viennent à se poser.
Dans ce podcast, on se propose d'aborder avec vous les petits soucis et les grands tracas que l'on rencontre dans le cadre de nos relations familiales pour mieux les comprendre et les surmonter.
Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de Card, l'application d'argent de poche préférée des familles.
Épisode numéro 19, la pornographie ne leur fait pas de bien.
Au début, la pornographie, d'un point de vue d'un adolescent, ça peut être utilisé comme un moyen de découverte de son corps. Puis très vite, on se rend compte qu'à travers les films pornographiques, qu'il y a des formes de soumission, de violence physique ou morale, et qu'en fait, notre image des relations sexuelles, elle est complètement biaisée et on est à côté de la réalité. Mais ça, on va le comprendre un peu plus tard, quand on aura notre première relation avec une fille ou un garçon. On se rendra compte que ce que c'est réellement d'avoir un rapport sexuel avec une personne. Donc c'est-à-dire là où il y a de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de la communication et bien d'autres émotions qui vont émaner de notre corps. En clair, je dirais que la pornographie, ça fausse la réalité des relations hommes-femmes et que surtout ça renferme les personnes sur elles-mêmes.
Alors Béatrice, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile pour des enfants ou des adolescents d'accéder à des contenus pornographiques, en le cherchant ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en dis ?
J'en dis exactement ce qu'on vient de dire dans le titre de cet épisode, c'est-à-dire que vraiment, vraiment, ça ne leur fait pas du bien. Et alors, quand on parle de mineurs et de leur accès à la pornographie, il faut bien comprendre quand même qu'on ne parle pas du tout de comportements marginaux qui toucheraient les plus isolés ou les enfants qui vivraient dans un environnement extrêmement précaire. On est franchement loin de l'exception, de la marginalité, puisqu'on sait qu'il y a 82% des mineurs qui ont été exposés à des contenus pornographiques. Alors aujourd'hui, effectivement, tu le dis, ça n'a jamais été aussi facile pour des enfants et des adolescents d'accéder à des contenus pornographiques de manière délibérée ou accidentelle. 2/3 des enfants de moins de 12 ans possèdent un smartphone. Ça, c'est déjà la première question, parce que l'âge moyen du smartphone maintenant, c'est 10 ans. Et donc, les enfants se retrouvent à 10 ans, avec un outil qui leur permet d'aller sur Internet et donc d'être confrontés à des contenus qui sont réservés aux adultes. Effectivement, les parents ne se rendent pas compte que quand ils donnent un smartphone à leurs enfants, ils les exposent, s'il n'y a pas de contrôle parental, etc., etc., s'il n'y a pas en plus d'éducation préalable, ils les exposent à des risques d'être confrontés à des contenus pour adultes. Donc ce risque, il est très très fort. Et chez les plus jeunes, la confrontation avec des images pornographiques, elle se fait le plus souvent de façon fortuite. C'est récemment, là, je voyais un enfant très petit, hein, de 7 ans, 6 ans même, qui était tombé sur des images pornographiques sur l'ordinateur de son père, qu'il avait laissé ouvert. Donc c'est de façon accidentelle. Et pour eux, c'est un peu une catastrophe.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui tombe sur des contenus pornographiques ?
Pour lui, c'est une véritable effraction psychique. Ça le sidère, en même temps, ça le fascine et ça l'excite. Donc, ça fait beaucoup d'émotions compliquées à la fois. Ils ne sont absolument pas préparés à voir des images aussi violentes, parce que les enfants, ils n'ont aucune représentation psychique de la sexualité génitale des adultes. Et donc, ils sont complètement agressés tout d'un coup, parce qu'ils ont sous les yeux. Alors certains vont en parler à leurs parents, mais beaucoup, ils ne vont pas le faire parce qu'en réalité, ils se sentent en faute et ils ont l'impression qu'ils vont se faire gronder. Donc ils se sentent très très coupables et notamment ils se sentent aussi coupables parce qu'ils sont assez excités. Donc il y a la sidération, mais aussi l'excitation et la fascination. Donc certains vont y retourner parce que ça les fascine, D'autres vont peut-être être plus confiants, avoir moins de sentiments de culpabilité et vont en parler à leurs parents. Mais ce n'est pas non plus complètement évident. Hein.
Alors justement, quand tu dis qu'à la fois ils sont excités et en même temps ils ont honte, que souvent ils n'en parlent pas, du coup, qu'est-ce qui peut alerter les parents dans le comportement de l'enfant ?
L'enfant, il peut avoir des troubles anxieux en réalité. Des troubles anxieux, c'est-à-dire un peu proche de ce qu'on retrouve dans les syndromes de stress post-traumatique, c'est-à-dire des troubles du sommeil, des cauchemars, de l'agitation, des plaintes somatiques aussi, mal au ventre, mal à la tête. Voilà, un enfant qui change de comportement.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les parents en fait dans ces cas-là ? Comment ils peuvent interroger sans tout de suite être trop intrusifs ?
Déjà, les parents, ils pensent pas forcément toujours à ça, hein, parce qu'ils sont eux-mêmes assez sidérés quand ils se rendent compte qu'un enfant de 7 ou 8 ans est tombé sur des images pornographiques. Donc, évidemment, c'est pas du tout la première chose à laquelle ils vont penser. Mais moi, ce que je leur conseille de faire, c'est émettre des hypothèses. Il faut toujours émettre des hypothèses. Peut-être que, tu sais, on voit quand même des enfants, on entend parler d'enfants qui, parfois, sur l'ordinateur, sont tombés sur des images qui leur font très peur. Et peut-être ça t'est arrivé, donc parler en termes d'hypothèses, de suppositions, les mettre en confiance et surtout leur rappeler qu'ils ne sont absolument pas coupables et ensuite entamer un dialogue pour leur expliquer évidemment que c'est tout à fait normal que ça leur fasse peur et qu'ils trouvent ça très effrayant. Et parce qu'il y a des adultes qui n'aiment pas du tout ces images non plus et que ça n'a rien à voir avec les câlins, par exemple, que se font papa et maman, que ça n'a rien à voir.
Et alors, en consultation, quand tu travailles avec les enfants sur ces thématiques-là, en quoi ça consiste ce travail ?
Déjà, moi, quand je les vois, c'est qu'ils n'ont pas réussi vraiment à parler à leurs parents. C'est qu'ils ont un comportement qui détonne ou alors ils ont eu des comportements à l'extérieur qui étaient choquants.
Par exemple.
Moi, j'ai vu des enfants qui avaient eu des gestes déplacés, notamment qui avaient, par exemple, baissé la culotte du petit copain en grande section ou en CP. Et ça avait été un scandale dans l'école, ses parents avaient été convoqués, évidemment l'enfant, non seulement il lui avait baissé la culotte, mais il lui avait fait une fellation en réalité. Et donc l'enfant en a parlé à ses parents, qui a prévenu l'école, donc ça a fait toute une histoire de façon tout à fait légitime du reste. Et en réalité, ses parents qui m'ont consulté pensaient qu'il avait été agressé en fait. Et qu'il s'était passé quelque chose au centre aéré. Et moi, quand je l'ai reçu, donc, je l'ai fait parler en le mettant évidemment énormément en confiance, en disant qu'il était coupable de rien, que peut-être si, que peut-être ça. Et au bout du compte, finalement, c'est lui qui a dit, tout en bâtissant toute une histoire, qu'au départ, il avait vu des images au centre aéré parce qu'on leur avait montré un film. Enfin, c'était, en fait, son récit était assez incohérent, mais ça se situait bien au centre aéré, au départ, de son scénario. Et en réalité, en allant doucement et en montrant un petit peu les incohérences, en disant, tiens, mais c'est bizarre quand même, au centre aéré, on montre des films comme ça qui font peur aux enfants, etc. Eh bien, il a été amené à me dire qu'effectivement, il avait vu des images sur l'ordinateur de son père qui, en fait, qui était en train de monter un film. Voilà, et qui avait oublié de fermer sa page. En fait, c'est toujours un travail de mise en confiance pour que l'enfant, tout à fait mis en confiance, se disent qu'il n'y a aucun danger à dire les choses. Et après, ils sont très contents, parce qu'ils sont libérés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de culpabilité.
Donc là, tu parles des enfants jeunes, hein, pour qui ça a pu être un traumatisme. Mais quand ils sont adolescents, c'est quand même des choses auxquelles ils ont, qui sont plus familières, entre guillemets, pour eux. De quelle manière est-ce que ça peut les impacter ?
Alors d'abord, effectivement, tu as tout à fait raison. Les adolescents, ils y vont rarement par hasard. Hein. C'est une activité, c'est même, on pourrait dire, le grand jeu des garçons, voire des filles maintenant. On en parlera du collège, par exemple, hein, et même après. Mais au collège, on peut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui vont sur les sites, puisque donc, effectivement, ils ont leur smartphone et que c'est extrêmement facile pour eux d'y accéder. Ils y vont souvent avant d'avoir une sexualité agie, donc 12 ans, 13 ans.
Pour apprendre un peu
14
aussi.
Ans. Oui, parce que la sexualité, à cet âge-là, ça les intéresse énormément. Donc, ils sont très curieux de tout ça. Et puis, comme ils en parlent entre eux, ça fait tache d'huile. Donc, ce que je dis toujours, c'est que la pornographie, c'est une réponse malsaine à une question saine. Hein. Les adolescents s'intéressent à la sexualité, ont besoin d'informations sur la sexualité. Si on ne leur donne pas, ils vont les chercher ailleurs. Hein. Et puis après, c'est aussi un phénomène, voilà, ça se répand. Il suffit qu'il y en ait plusieurs qui le fassent pour que finalement les autres copient, fassent la même chose. C'est très, très mauvais pour leur sexualité. Évidemment que ce n'est pas comme ça qui vont avoir une information structurante et positive de la sexualité. Ce qui m'apparaît très dommage pour eux, c'est que ça réduit comme peau de chagrin la part de rêverie, de fantasme, de pensée qui sont absolument essentielles dans des rapports sexuels et amoureux. Les images, elles s'imposent à eux. Il y a des scénarios tout faits qui s'imposent. Donc, en fait, ça réduit à néant la part de créativité personnelle pour imposer, via ces images qui sont quand même très crues, des scénarios et des normes. Mmh. Je trouve que la pornographie, pour les adolescents, c'est extrêmement normatif.
Ouais. Et en plus, ça risque aussi de créer des angoisses par rapport à leur vision de la sexualité.
Effectivement, ça leur donne des normes qui ne sont absolument pas en adéquation avec ce qu'ils vont vivre. En fait, ça annihile toute forme de liberté dont ils auraient besoin pour construire leur propre sexualité. Mmh. Non seulement ça leur apprend rien, mais ça les ligote plutôt. Ils abordent la sexualité, et ça je trouve que c'est un autre angle assez pervers, sous l'angle de la performance. C'est terriblement angoissant et inhibant. La taille du sexe, par exemple, elle peut terriblement inquiéter les garçons qui se sentent tout petits, et ça réactive chez eux une angoisse de castration, qui est une angoisse qu'ils ont, ce qui est une étape du développement du petit garçon, et un manque de confiance en eux. Évidemment, face à ce qu'ils considèrent comme des exploits, ils ont l'impression de jamais être, de pouvoir être à la hauteur. C'est là où je dis que l'idéal pornographique, en fait, il est tyrannique. Il est tyrannique et angoissant. Et en plus de ça, ils ont du mal, les adolescents, à remettre en cause les représentations que ces images véhiculent, parce que quand même, le plus souvent, peut-être ils font de temps en temps avec des copains, mais quand même très souvent, ils consomment ces images tout seuls. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'être rassurés. Il n'y a aucun discours adulte, par exemple, qui leur permette de mettre de la distance avec des émotions que ça leur génère. Moi, je pense que l'absence de parole à ce moment-là, autour de toutes ces sensations et toutes ces représentations, leur fait cruellement défaut. Et je pense que, notamment ceux qui ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils sont très déboussolés par ça. Et là encore, un peu comme les plus petits, ça les déboussole, mais ça les fascine. Donc, ils y reviennent.
Donc, il y a un risque d'addiction dans ces cas-là ?
Chez certains, mais alors pas chez tous, hein, parce qu'il y a un moment où justement, grandissant, ayant une sexualité agie, ayant des rencontres amoureuses, étant amoureux, etc., ils vont aussi peu à peu se détacher de ça. Ce sont les plus vulnérables qui vont être addicts et qui vont malheureusement pour eux avoir besoin compulsivement de ces images pour être excités.
Mmh. Et chez les filles alors, est-ce que c'est la même chose ?
Alors, les filles, elles semblent quand même encore moins friandes de ces vidéos, de ces images que les garçons, mais quand même, certaines en regardent aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles craignent pas les paradoxes, parce que celles qui dénoncent ces pratiques, qui souvent s'indignent à la suite des nombreux hashtags qui fleurissent sur Twitter ou sur autres réseaux, se croient obligées d'adopter certains codes, en fait, pour être des partenaires avertis acceptables. Hein. Épilation totale, pratique en tout genre, etc. Donc, elles sont impactées par ces images pornographiques qui, en plus de ça, véhiculent un message de rapport des garçons et des filles entre eux qui n'est absolument pas symétrique parce que loin d'être un échange égalitaire, loin d'être une découverte partagée et respectueuse, loin d'être une intimité complice, en fait, la pornographie, elle leur envoie une image violente de femme dominée. Mmh. Donc, tout ça est effectivement très mauvais pour elles aussi. Et j'espère qu'elles ont la possibilité de prendre du recul et de voir que ça leur envoie réellement comme message. Mais il y a incontestablement, dans ces vidéos porno, un renforcement des discours misogynes, une représentation caricaturale des stéréotypes de l'homme hyper viril et dominateur et de la femme toujours soumise et consentante. Et pour faire plaisir à sa petite copine, eh ben, il faudrait lui taper sur les fesses et la tirer par les cheveux. Donc j'espère qu'elles se rendent compte qu'il n'y a aucune dimension affective et que c'est une vision crue, brutale et certainement pas positive pour elles, quoi. Mmh.
Quel autre impact est-ce que ça peut avoir sur les rapports entre garçons et filles ?
Moi, je trouve que dans ces vidéos aussi, la place du consentement, elle n'existe pas. Or, c'est fondamental dans une relation amoureuse qu'il y ait un consentement mutuel. Quand c'est non, c'est non. Quand je dors, je ne suis pas là pour te dire oui. Donc, la place du consentement, elle est complètement bafouée dans ces vidéos. Et je pense qu'il faut inlassablement leur rappeler à tous que le consentement, c'est la base de tout rapport amoureux. Sans consentement, il n'y a pas de rapport.
Alors, il y a une tendance qui est assez en vogue ces dernières années, qui n'est pas directement pornographique, mais qui peut être liée à ces images-là. C'est celle du nude. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors le nude, effectivement, c'est envoyer via les réseaux sociaux des images de soi dénudées ou une partie du corps. Et ça, c'est effectivement très accentué parce que la pornographie banalise comme ça l'étalement de ces corps morcelés en réalité. Et les nudes ne sont pas sans inconvénient parce qu'ils participent beaucoup, beaucoup, beaucoup au harcèlement. Très souvent, malheureusement, les filles qui envoient des nudes, soit les envoient à un soi-disant petit copain qui va ensuite lui-même les diffuser, soit croient les envoyer à un petit copain et en fait, ce n'est pas du tout le petit copain. Donc, ça a une influence incontestable sur le harcèlement et sur les dérapages sur Internet. Mmh.
Du coup, c'est important que les parents communiquent avec leurs enfants autour de ces sujets-là, dès le plus jeune âge ?
Je crois que c'est très important que les parents ne soient pas naïfs et se disent que quand ils donnent un smartphone à 10 ans à leurs enfants, ils leur donnent accès à Internet et que sur Internet, il y a malheureusement aujourd'hui la possibilité pour des mineurs d'avoir accès à des contenus pornographiques, à des contenus adultes. Pour l'instant, ce qui pourrait régler cette difficulté-là, qui est plus qu'une difficulté, qui est vraiment une question de société, c'est de vérifier l'âge des utilisateurs. Or, pour l'instant, cette vérification absolument indispensable, qu'on n'arrive pas à obtenir, se heurte à la protection de la vie privée et l'anonymat des consommateurs. Les associations qui se donnent corps et âme pour essayer d'obtenir gain de cause, l'ARCOM aussi, se heurte à ces producteurs de films pornographiques qui mettent en avant la question de l'anonymat des consommateurs et du respect de la vie privée. Donc, il faut qu'on arrive, et je crois qu'on est quand même assez proche d'y arriver, à obtenir que ce système de vérification de l'âge des consommateurs soit effectif vraiment, vraiment, vraiment.
D'accord. Donc finalement, qu'est-ce qui est important de retenir dans tout ça ?
Que la pornographie, ça n'a rien de marginal, que c'est un véritable problème de société, qu'il y a une augmentation exponentielle des jeunes consommateurs, puisque 82% des mineurs y ont accès. Donc se dire que c'est absolument pas un phénomène marginal, que quand on donne un smartphone à un enfant, un ado si jeune, il faut absolument installer un logiciel de contrôle parental, ce qui évite quand même ce genre de déconvenu. En tous les cas, ça évite l'exposition des mineurs, notamment celle qui est accidentelle, donc pour les plus jeunes. Et puis, il faut développer l'éducation à la sexualité. La majorité des établissements ne respectent pas l'obligation d'organiser 3 séances par an du CP à la terminale. Et pourtant, il y a une circulaire de 2003 qui demande qu'il y ait ces séances d'information. Les parents, ils ne sont pas non plus très à l'aise par rapport à ça. Or, la sexualité, c'est quelque chose, je veux dire, depuis qu'ils sont petits, ils s'y intéressent. Ils s'intéressent quand ils ont 3 ans, ils s'intéressent à comment on fait les bébés, etc. Donc, c'est important, au fur et à mesure de leur développement et en fonction de leur âge, de les informer de tout ça. Je pense qu'il faut peut-être aussi, dans les collèges et dans les écoles et dans les lycées, continuer d'informer les parents sur ce phénomène, parce qu'il y en a qui sont toujours surpris que leurs enfants soient perturbés par ça.
Merci Béatrice. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'En Famille, le podcast de toutes les familles.
Merci Marie.